dans tout le continent africain sur la chaîne 555 de Canal.
Il est 14h ici à Washington DC. Eric Manila Kiza de retour avec vous dans ce bulletin d'information. Au Nigeria, au moins 110 civils ont été froidement tués hier alors qu'ils travaillaient dans leur champ, selon un nouveau bilan des Nations Unies. C'est l'attaque la plus meurtrière menée contre des civils de cette année dans le nord-est du Nigeria, en proie à une insurrection djihadiste depuis plus de 10 ans. Le massacre s'est déroulé le jour des élections locales dans l'état de Maïdougouri, les premières organisées depuis le début de l'insurrection de Boko Haram en 2009. Depuis cette date, on dénombre plus de 36 000 tués et plus de 2 millions de personnes ont dû fuir leur foyer. Le président du Nigeria a condamné samedi soir le meurtre de ses agriculteurs dévoués à leur travail par des terroristes. Le pays entier est blessé par ces assassinats insensés, a-t-il ajouté. Au moins 30 membres des forces afghanes ont été tués dans un attentat suicide à la voiture piégée contre une de leurs bases dimanche dans la province de Ghazni, dans l'est de l'Afghanistan. De nombreux blessés affluent dimanche dans les hôpitaux de Mekele, 24 heures après la prise annoncée par le gouvernement éthiopien de cette ville, capitale du Tigré. C'est dans le nord du pays et de sa victoire militaire dans cette région dissidente a mis en garde le comité international de la Croix-Rouge. Aucun bilan précis du conflit n'est jusqu'ici disponible, mais plus de 43 000 Éthiopiens ont fui au Soudan voisin. Samedi, les dirigeants tigréens avaient dénoncé des tirs à l'arme lourde contre Mekele, où vivent habituellement 500 000 habitants. Un mouvement de l'opposition togolais, la DMK, a dénoncé dimanche les intimidations et le harcèlement judiciaire dont il est victime après l'interpellation ce week-end de deux de ses membres, dont Brigitte Adjamagbo Johnson, grande figure de l'opposition togolaise. La DMK, qui exige la libération immédiate et sans condition de ses deux responsables, affirmer qu'elle rendra le président Fornia Simbe personnellement responsable de ce qu'il pourrait leur arriver. Ici aux États-Unis, la Cour suprême de l'État de Pennsylvanie a rejeté samedi une nouvelle plainte de la campagne de Donald Trump dénonçant des irrégularités lors du scrutin présidentiel. La plainte déposée par les Républicains réclamait soit l'invalidation des votes par la poste, soit l'annulation de l'ensemble du vote pour laisser aux législateurs de l'État le choix de décider du vainqueur. La Cour a rejeté ces deux demandes. Le président élu Joe Biden a remporté la victoire en Pennsylvanie avec une différence de 81 000 voix. La plainte contestait aussi la loi adoptée en 2019 instaurant le vote par correspondance en Pennsylvanie, affirmant qu'elle était anticonstitutionnelle. Dans leur verdict, les juges ont fait valoir que la contestation de cette loi intervenait trop tard, soit plus d'un an après son adoption. La Pennsylvanie a certifié la victoire de Joe Biden le 24 novembre, mais cette dernière plainte visait également à contester cette décision. Vendredi, une cour d'appel avait rejeté une autre plainte de la campagne Trump, affirmant que l'élection n'avait pas été équitable et a refusé de bloquer la certification de la victoire de Joe Biden, toujours en Pennsylvanie. Et dans le football, Naples jouera ce soir contre la Roma avec un maillot rappelant celui de l'Argentine pour son premier match de championnat depuis le décès de son ex numéro 10, Diego Maradona, a annoncé le club italien. Le lancement de son nouveau maillot en hommage à la star argentine était déjà prévu avant son décès, précise le club. Nous espérions que Diego puisse le voir et pourquoi pas le mettre sur ses épaules pour vibrer avec nous, ajoute ce texte, accompagné des célèbres rayures verticales bleues et blanches du maillot argentin. Les joueurs ont déjà rendu hommage à Maradona, décédé mercredi à l'âge de 60 ans à l'occasion du match de Ligue Europa disputé jeudi soir à Naples contre les Croates de Rijeka. Tous les Napolitains étaient entrés sur la pelouse avec le numéro 10 de Maradona dans le dos, un numéro qui n'est plus attribué dans le club depuis des années. Le stade de San Paolo, théâtre des exploits de Maradona pendant cette saison, 84-91 devrait par ailleurs être rebaptisé du nom de la star argentine sur proposition du maire.
Foi et tradition.
Vérité et doctrine.
Le dialogue des religions.
Sur la voie de l'Amérique.
Bienvenue à tous dans le dialogue des religions et sur VOA Afrique. Eric Manilakiza en votre compagnie. La mise en onde est assurée par Lionel Lunanila Gahima. Ce soir, nous parlons du mariage fondé sur la foi. Pour le meilleur et pour le pire, c'est une promesse que les époux échangent au moment de leur union solennelle et reflète ainsi l'amour de Dieu pour nous tous et assure la présence et le soutien mutuel. Malgré cet engagement réciproque, nombreux sont les couples qui se séparent et divorcent. La foi peut-elle sauver un mariage en difficulté? Nous en parlons dans un instant avec nos invités. Encore une fois, merci d'être à l'écoute. Ce soir, nous recevons le couple Nathalie Nyamoya et Olivier Akizimana en ligne depuis Montréal au Canada. Bonsoir les amis.
Bonsoir Eric.
Bonsoir Eric.
Selon le pape François, le sacrement du mariage est un grand acte de foi et d'amour. Nathalie, pourquoi se quitte-t-on dans un mariage fondé initialement sur cette alliance ?
Écoute, je pense qu'au départ, on a des idées assez préconçues sur le mariage en général, mais bon, je dirais que, sans trop entrer dans les détails, on pourrait dire que ce qui détruit le mariage, c'est plus les attentes qui sont basées sur les influences, soit culturelles, soit les influences qu'on a vues au travers des films, soit une mauvaise ou un manque de communication entre les couples, ou les tempéraments qui sont extrêmement différents et qu'on n'arrive pas à comprendre au départ.
Olivier, un mariage peut paraître comme une prison, n'est-ce pas? Ce qui fait que les parties décident de se séparer pour être en paix, entre guillemets. Quand et comment les ennuis se présentent?
Souvent, on projette donc les mauvais moments qu'on a déjà vécu ou les bons moments qu'on a déjà vécu. Mais on ne sait pas ce qu'on va affronter. En réalité, quand je dis que je vais aimer Nathalie, dans les bons ou les mauvais moments, je fais référence aux bons moments et mauvais moments que j'ai déjà rencontrer. Mais concrètement, je ne suis pas apte à dire que je vais t'aimer dans les bons et les mauvais moments. Au fond, il serait mieux de dire je vais t'aimer avec l'aide de Dieu. Parce que les gens, ils font confiance à leur capacité à aimer l'autre. C'est pour cela que quand viennent les tentations et autres pressions de la vie, des fois, on voit que le mariage part à mille morceaux et les gens se posent des questions. Alors, comme vous venez de le dire, on se sent comme dans une prison parce qu'il y a un problème de communication ou une mauvaise communication ou un manque total de communication. Donc on se sent mal et on a envie de quitter, de partir. Et malheureusement, la liberté ne se trouve même pas ailleurs, donc ou en dehors de son mariage. Parce que la liberté, c'est pas un concept seulement. La liberté, c'est Jésus seul qui peut donc nous la donner.
Très souvent, le choix des époux repose sur l'attirance et la compatibilité mutuelle. Donc pour vous, ce n'est pas suffisant pour un amour sincère et profond.
C'est le premier point qui t'attire, parce que vous savez que physiquement, l'homme et la femme changent avec l'âge. C'est pour cela que, au-delà de cette beauté physique, il y a donc ses valeurs, il y a sa foi, parce qu'on parle du mariage et de la foi, il y a sa foi qui doit t'attirer. C'est ça le roc sur lequel vous devez bâtir votre mariage.
Nathalie, vous parliez de tempéraments, lesquels, par exemple?
En psychologie, on observe 4 grands types de tempéraments. Les tempéraments classés extravertis, c'est-à-dire les sanguins et les colériques. Et les tempéraments dits introvertis, c'est-à-dire les mélancoliques et les phlegmatiques. Alors, les sanguins, ce sont des gens qui sont portés vers les autres. Olivier, par exemple, c'est quelqu'un qui est très sanguin. Au départ, quand on se connaissait, il prenait le temps de saluer tout le monde. C'est une personne qui peut prendre des heures, une heure, pratiquement à saluer les gens dans une fête après l'église. Alors que moi, je suis dans un tempérament plutôt mélancolique, je suis plus dans les idées et ça me stressait. Je me disais, c'est pas, cette personne ne m'aime pas, donc pourquoi est-ce qu'elle prend du temps à saluer des gens pendant une heure? Et dans ma conception, c'est vrai, j'aime les gens, mais c'est plutôt un concept idéal. Je ne le manifeste pas. Donc, il y a ce tempérament sanguin, colérique. Il est plus porté vers l'action. C'est quelqu'un qui est vraiment fougueux, mais qui est centré plus sur les choses à accomplir. Il va faire beaucoup de dégâts en général, mais s'il est bien orienté, il arrive très loin. Ce sont des gens qui peuvent être des CEO, des entrepreneurs nés, en fait. Et ainsi que les phlegmatiques, eux, ce sont les gens qui se donnent, qui n'aiment pas être une source de problèmes. Ce sont des gens qui aiment bien aller dans le sens des autres, ne pas poser de problèmes, des gens extrêmement paisibles. C'est rare qu'on se marie avec les mêmes tempéraments. Chaque tempérament a des défauts, mais quand on arrive à savoir comment l'autre fonctionne, ça nous aide à quand même à apprécier la vie, à d'abord apprécier ses bons côtés et à savoir que si Olivier ne s'exprime pas de cette manière qui est mon langage à moi de mélancolique, c'est pas contre moi. Ça m'a pris du temps, ça lui a aussi pris du temps, parce qu'au départ, vraiment, ça n'allait pas du tout. Mais quand on commence à prendre ce genre de choses, on est très rassuré.
Olivier,
durant nos premières années de mariage, des fois, je me disais, mais elle s'exprime jamais, elle n'exprime pas ce qu'elle veut, ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas. Mm-hmm. Alors que moi, j'étais là, j'exprimais donc la profondeur de mon cœur, je l'étalais au grand jour, je pouvais m'exprimer facilement. Mais j'ai appris de plus en plus que par rapport à son tempérament, c'est pas quelqu'un qui s'exprime facilement. Aussi, c'est quelqu'un qui est porté aux idées. Elle réfléchit énormément. Même actuellement, je lui propose, excusez Nathalie, on peut sortir dehors, on peut aller quelque part.
Elle dit,
j'improvise. Alors je dis, ah, on y va, on peut sortir. Non, elle dit, il fallait me le dire hier. Et je dis, cette femme, elle est comment? Donc, je comprenais pas trop comment elle réagissait. Parce que, avant de connaître son tempérament, moi, je l'interprétais comme le fait qu'elle m'aimait pas. Je disais, cette femme n'est pas tellement engagée avec moi. C'est pour cela que peut-être elle a honte de sortir avec moi. Mais, de plus en plus, en connaissant son tempérament, je me suis dit, ah, c'est comme ça qu'elle réfléchit. Elle ne réagit pas comme moi. Donc, selon les situations, et juge pas les, donc je dirais, les situations comme je le fais. Moi, j'y vais directement. Par exemple, s'il y a une personne qui a un problème, moi, j'y vais. Je suis un pompier. Il faut que j'y aille directement. Mais Nathalie, elle a besoin de s'asseoir, d'abord d'analyser la situation. Et moi, je dis, non, il y a l'urgence. Il faut qu'on y aille vite. Alors, de plus en plus, je la connais et je commence donc à apprivoiser son tempérament. Avant, je dirais, c'était pas facile.
Il est gentil quand même, parce que dans certaines circonstances, un homme comme lui, qui doit, entre guillemets, représenter l'autorité dans la maison, il pourrait prendre mes réactions comme une forme de résistance ou même d'un manque de rébellion carrément.
Et comment vous parvenez à tempérer votre tempérament?
Je dirais, ça, c'est là où donc la place de la foi est hyper importante, parce que Dieu est patient avec nous. Et vous savez, quand on définit l'amour, donc l'amour qui vient de Dieu, on parle de la patience. On dit dans le premier livre de Corinthiens, chapitre 13, verset 4, on dit « l'amour est patient ». Donc la preuve de l'amour, c'est qu'on est patient à l'égard de son partenaire ou de sa partenaire. C'est pour cela que j'ai appris à être patient. Des fois, j'attendais, je ruminais ma déception dans mon cœur, mais après, elle venait et essayait de m'expliquer. J'essayais de lui poser aussi d'autres questions pour savoir réellement donc son intention, sa motivation. Qu'est-ce qui l'a poussé à agir de telle manière? Elle m'expliquait ça. Donc je dirais, c'est la place de la foi dans la prière, dans l'intimité avec Dieu. Tu sens et tu te rappelles que Dieu est patient à ton égard, envers toi. Alors tu te dis, il faut que je sois patient avec elle.
Merci.
Nathalie.
Pour moi, je pense que la foi m'a aidé à connaître mon identité dans le couple. Parce que l'une des erreurs que nous commettons quand on se marie, c'est de penser que l'autre va nous compléter et que le mariage va nous donner une certaine identité, un certain statut. Et la foi m'a permis de savoir que je suis d'abord l'enfant de Dieu. Je suis une personne à part entière et que mon identité ne dépend pas des autres. Entre autres de mon mari, mais de Dieu. Ce qui fait que lorsqu'Olivier ne comprend pas certaines choses, ou que, comme un sanguin, il arrive des fois à dire des choses, soit qu'il regrette ou qu'il dit selon sa vision des choses. Moi, quand tu donnes une parole, avant de parler, je médite beaucoup sur ce que je vais dire. Et je me dis que tout le monde pense comme moi. Ce qui fait qu'une parole qui peut être dite par une personne, soit colérique, en tout cas excentrique ou extravertie, je peux la percevoir d'une façon très douloureuse, elle peut me blesser. Et avec la parole de Dieu, avec la foi, j'ai compris que ce qu'il disait, ce n'était pas contre moi. C'était sa façon de s'exprimer. Et ce qu'il disait, c'était aussi un état d'âme, parce qu'il peut être dans un état d'âme qui est pas très bon, il peut être malheureux, triste. C'était juste un état d'âme. Ce n'était pas son identité qui me blessait personnellement. Ça m'a beaucoup aidé à me focaliser plus sur ce que Dieu pensait de moi que sur ce que je pense qui ne devrait pas être prise à la lettre.
Vous mettez donc Dieu au centre de votre couple. Concrètement, comment vous parvenez à le faire dans la pratique?
On vit simplement. On n'a pas le temps d'être religieux ou d'avoir des habitudes particulières. C'est une vie au quotidien, une vie normale. Et les petits défis que l'on a chaque jour représente peut-être des petites victoires par rapport à ce que nous avons déjà accompli. Si j'arrive pas à comprendre, je m'exprime mieux maintenant parce que je sais que je peux facilement sortir mes sentiments, exprimer mes pensées et que mes pensées ne seront pas directement jugées de façon à ce que je sois blessée. Je pense que ce sont des petits combats au quotidien. Oui, au quotidien, petit à petit, qui fait que la marche dans le couple se fusionne en fait.
Je pense aussi il y a la place de l'échange qu'on a parmi nous parce que un des problèmes que rencontrent les couples, c'est plus un manque de communication ou une mauvaise communication. C'est un psychologue qui a écrit un livre, Les 5 langages d'amour. Et là, il parle que les gens ont différentes sortes d'amour, donc de langage, une façon de s'exprimer. Et par exemple, bon, langage d'amour, c'est plus, je dirais, les cadeaux. Et Nathalie, c'est les moments de qualité, par exemple. Alors, j'ai compris que quand je lui accorde du temps, quand je suis avec elle et que je l'écoute, parce que la femme a souvent besoin de s'exprimer et que je lui prête l'oreille attentive, là, elle est vraiment touchée.
Vous écoutez le dialogue des religions, Lionel Namira Gahima sur la mise en onde, la présentation Eric Manilakiza. Dans un instant, la suite de notre discussion. Nous parlons du mariage fondé sur la foi. Selon 1 Jean 4,18, l'amour parfait chasse la crainte, n'est-ce pas? Olivier, est-ce qu'il existe des principes bibliques pour un mariage qui dure et qui augmente en intensité?
L'homme doit aimer la femme comme Christ aime l'Église et que la femme doit être soumise à l'homme. Je dirais que c'est les principes de base. Mais vous savez, quand on parle de principes...
C'est dans Éphésiens 5, 25, n'est-ce pas?
Oui, c'est ça, exactement. Et vous savez, souvent quand on parle des principes, ça devient souvent comme des lois. Si ça devient comme des lois, ça devient de plus en plus pesant. Et c'est là où on commence à chercher certes la liberté dont vous avez parlé tantôt. Mais quand je parle donc des principes et quand il y a l'amour, ils ne sont plus des principes. Ça devient comme des gardes-fous qui sont là pour vous accompagner parce que vous vous aimez déjà. Je ne sais pas ce que Nathalie en pense.
Oui, je me dis aussi que ça dépend aussi des saisons dans lesquelles on se trouve. Il y a des fois où on se sent très faible et l'autre est là pour vous soutenir et ne considère pas vraiment ce qu'il est en train de vivre, mais aide l'autre. Il y a des fois où on est tous forts. Là, on jouit de la vie quotidienne du couple en général et surtout de savoir d'être au courant de ce que l'autre est et qui n'est pas comme toi, même si on est appelé à devenir une seule chair. Et savoir respecter la personnalité de l'autre, je pense que c'est très important.
Comment justement cimenter une relation sur la parole de Dieu?
La parole de Dieu, je dirais, c'est une base. C'est elle qui nous guide. Comme un des psaumes dit, ta parole est une lampe à mes pieds. C'est elle qui nous sert comme modèle de vie. Ce n'est pas seulement des principes qu'elle nous communique, mais c'est une vie. Et Jésus a dit, les paroles que je vous dis, ça communique la vie. Et chaque fois quand on parle donc de la parole de Dieu et qu'on accorde une place à la parole de Dieu dans notre couple. Donc, cette parole vient et commence à communiquer la vie. Et souvent, je parlais tantôt de l'échange, on aime échanger sur la Bible. Et souvent, il y a des principes ou des versets qui en ressortent. Et quand on échange là-dessus, ça nous permet d'entrer en profondeur et souvent, ou des fois, de traiter des problèmes. Alors, quand on parle et qu'on utilise la parole de Dieu, et nous éclaire. Et ça devient comme un miroir dans lequel on voit notre image, on voit notre faiblesse, mais aussi on voit notre force. Mm-hmm. Et la parole de Dieu est là pour nous soutenir, pour nous motiver aussi et nous encourager à avancer. Mais la parole de Dieu aussi nous présente une personne. C'est lui qui est à la base de la création du mariage. Mm-hmm. Vous savez, Nathalie l'a dit souvent, on ne se marie pas pour nous-mêmes. On se marie pour Dieu. On est dans une mission. C'est un service. Et il y a le grand patron, le grand boss qui est Jésus. Mm-hmm. Et à travers la parole, on le découvre. On découvre que c'est lui qui est là pour nous aider, pour nous accompagner, nous prendre par la main et nous montrer le bon chemin.
Nathalie, est-ce que du point de vue spirituel, est-ce que vous priez ensemble? Est-ce que vous partagez ce que vous lisez dans la parole de Dieu?
Ça, c'est une excellente question. Je pense qu'on va choquer beaucoup de chrétiens là. On va vraiment les choquer. Quand on s'est rencontrés, on était tous chrétiens, comme on l'avait dit la dernière fois. Et je m'étais mis dans la tête que, oh, quand même, tous les couples, il paraîtrait qu'il faudrait qu'ils prient ensemble. Tous les soirs, on a essayé, ça n'a pas marché. Moi, je suis une personne de la nuit, j'aime même mon job, je le faisais la nuit, je suis médecin, je faisais mes gardes de nuit, j'aimais vraiment la vie de nuit, alors qu'Olivier, c'est quelqu'un de jour. Donc déjà, on était très différents. On a essayé par la force. Comme Olivier l'avait dit, lorsque vous mettez des choses comme des principes, en tout cas, ça devient pesant à la longue. On a commencé à être libre, on se dit, écoute, de toute façon, tu es un individu à part entière devant Dieu, je suis une fille de Dieu à part entière, tu auras ton moment à toi avec Dieu, j'aurai mon moment à moi avec Dieu. Et c'est vrai qu'il arrivait des fois où, en échangeant sur des sujets, ou en échangeant sur certaines choses, en méditant la parole de Dieu, on se dit, écoute, j'ai entendu un truc comme ça, j'ai médité sur ça. Il y a des rêves des fois où on prie ensemble, mais on n'a jamais mis ça comme une obligation de résultat, comme si notre vie maritale dépendait du fait qu'on prie ensemble. Non. Moi, je chéris mon moment avec Dieu. Et quand c'est un moment intime, c'est moi et mon Dieu, pas avec Olivier. Il arrive des fois que je prie avec Olivier. Je me dis que c'est la même chose comme la vie d'église. On ne prie pas tout le temps dans l'église, avec les gens tout le temps. Il y a des moments où c'est excellent d'être avec les frères en Christ et les sœurs en Christ, mais aussi des moments extrêmement précieux d'être seul avec Dieu. Donc nous, on n'a pas vraiment cette routine de, écoute, à 20h, on prie ensemble. Non. En tout cas, pour nous, ça ne marche pas. Ça n'a jamais marché.
Oui, allez-y.
Oui, j'allais dire, mais concrètement, on prie ensemble. Parce que, comme la parole de Dieu nous dit, donc c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Et souvent, quand on est rempli de Dieu et que l'autre est rempli de Dieu, vous retrouvez même vos échanges, ils sont remplis de Dieu. Alors, souvent, nous nous retrouvons en train de prier. À travers les échanges, on commence par les échanges, mais petit à petit, on se retrouve, on est en train de prier pour une requête particulière, ou pour un frère ou une sœur qu'on connaît, ou pour notre situation familiale. Donc, on le fait, mais c'est pas quelque chose qui est décidé à l'avance. Aussi, ça dépend aussi de la personnalité. Parce que moi, souvent, j'aime plaire les gens, j'aime plaire l'autre. Même quand j'élève ma voix pour prier, j'essaie de tourner ma prière dans le sens où ça va plaire à Nathalie. Et là, je me rends compte que je ne suis pas en train de prier Dieu, mais je prie, on dirait que je prie l'autre pour le satisfaire ou la satisfaire. Donc, il y a ces moments qui sont, je dirais, initiés par Dieu, initiés par cette abondance, initiés par cette coupe qui déborde, et on vit des moments excellents. Des fois, on passe 3 heures en train de pleurer sous la présence de Dieu, en train d'échanger, donc, en train de prier l'un pour l'autre, et alors qu'on n'avait pas planifié. Donc, ça se passe comme ça. Alors, j'aimerais aussi encourager les gens qui le font. Pour vous, si ça marche, continuez comme ça. Exact. Parce que c'est vraiment excellent que les couples prient ensemble. Mm-hmm. Parce que plus vous passez du temps ensemble à prier les uns pour les autres, plus vous n'aurez pas, je dirais, cette chance d'avoir des chicanes, d'avoir des problèmes entre vous. Parce que dans la prière, vous vous sanctifiez. Vous prenez le temps de vous demander pardon. Et ça vous aide.
Et comment vous faites pour le partage de rôles et responsabilités au sein de votre couple, Nathalie?
Elle se fait naturellement. Je me dis qu'elle se fait naturellement. Donc, il y a des choses que je fais naturellement. J'aime bien les choses rangées par mon caractère, par mon tempérament. Donc, en général, j'organise beaucoup les choses. Olivier, à la maison, c'est plus un soutien. Il va venir m'aider parce que quand je m'attache à faire une chose, j'ai envie de la perfectionner. Et là, quand je sens qu'il faut de l'aide, je demande à Olivier. Mais je me dis que, oui, c'est ça. Moi, je fais les choses comme je le sens, sachant qu'Olivier aussi est responsable de la maison.
Je dirais aussi, je suis plus le ministre des Relations Externes. Donc, encore tout ce qui touche, je dirais, à l'administration, parce que dans ces pays là où on vit, il y a certaines requêtes administratives. Souvent, c'est moi qui suis là pour répondre. S'il y a aussi des besoins pour aller aider les gens à l'extérieur, vous savez, on vit aussi dans une communauté burundaise. Quand il y a des problèmes, quand on doit soutenir un tel ou un tel. Donc, je suis toujours là. Je dirais, plus je suis porté vers l'extérieur et elle est portée vers l'intérieur. Mais on est là pour s'entraider. Et souvent, disons, par exemple, aussi pour les études des enfants, c'est elle qui s'implique davantage. C'est facile pour elle. Mais pour moi, quand vient le moment de donner des cours aux enfants, oh my God, je ne me reconnais même pas.
Donc, c'est comme cela que vous devenez une seule chair. Vous faites la vaisselle et vous l'épargnez de son temps qu'elle consacre aux enfants.
Oui. Mais moi, j'ai un bon rapport avec l'eau. Hein. Donc, je vais peut-être décevoir pas mal de personnes. J'aime beaucoup l'eau parce que, en général, je fais la vaisselle quand les enfants vont dormir. Et ça, là, je prends le temps de louer Dieu. En faisant ma vaisselle, c'est le moment où je prie parce que c'est très difficile d'avoir des moments de prière en Occident. Moi, la vaisselle, j'aime bien la faire moi-même parce que c'est vraiment un moment de louange, d'adoration en faisant la vaisselle. Et j'aime beaucoup l'eau. Peut-être que pour les autres, ce serait difficile, mais pour moi, ça me plaît beaucoup.
Je l'aide aussi à faire la vaisselle, mais je suis porté aussi de plus en plus à faire la cuisine.
Oui.
Parce que c'est ma passion. J'aime beaucoup faire la cuisine. Mm-hmm. Et chaque fois que je regarde YouTube et que je vois une plat qui me plaît, j'ai toujours tendance à essayer donc de le reproduire à la maison. J'essaie de le faire. Je dirais, il n'y a pas une personne qui est attitrée par rapport au service quelconque, mais on essaie de s'entraider. Et aussi, j'aide Nathalie parce que quand je vois qu'elle souffre dans une tâche, je suis porté à l'aider.
Et je suis très exprimer mes sentiments des fois.
Revenons sur les 5 langages de l'amour, il nous reste très peu de temps, Olivier.
Quand vous ne connaissez pas le langage d'amour de l'autre, de votre partenaire, souvent c'est difficile. Je donnais l'exemple tantôt. Pour moi, mon langage d'amour, c'est plus les cadeaux. Et je le faisais souvent avec Nathalie. Je me rappelle quand on était en Afrique, quand on était au Burundi. Et un jour, je me rappelle, et là, elle vient avec une boîte, là où était entassé tous mes cadeaux. Et là, elle me dit, mais tu sais, Olivier, ce qui me plaît, c'est parce que tu me ramènes. Et là, elle m'a montré tous ses cadeaux. Elle m'a dit, si tu m'accordes 10 minutes, que tu prêtes ton oreille, ça me suffit, ça me comble. Et j'ai dit, pourquoi tu ne me l'as pas dit avant? Parce que j'ai dépensé tant d'argent pour acheter ces cadeaux. Alors, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, ah, wow. Et elle, je la voyais souvent frustrée parce que je suis un fan du Barcelone. J'aime le soccer, le football. Alors, quand j'étais avec elle, c'est comme si elle était tout le temps, je dirais souvent, inspirée à me parler de quelque chose d'important. Quand il y avait le match, et je disais, mais cette femme, pourquoi elle n'a pas la révélation du moment, aux portes du bon moment? Pourquoi ne veut-elle pas attendre? Mais j'ai appris de plus en plus à connaître son langage d'amour. Et quand je sens
l'attention et l'attachement.
Oui, c'est ça.
Moi, j'aime bien les moments de qualité et ce qu'on appelle aussi les services rendus. Donc, moi, quand je vois une maison qui est propre et quand Olivier m'a aidé, je suis super contente. Là, je suis au max de la bénédiction. Alors qu'Olivier, il peut s'asseoir, ça peut pas nous poser de problème. Donc, quand on apprend ces petites choses, on apprend à parler le langage de l'autre. Maintenant, j'apprends à faire des cadeaux à Olivier, ce que je ne faisais pas avant. Et oui, voilà, on essaie de s'équilibrer comme ça.
Qu'est-ce que vous vous dites le matin lorsque vous vous réveillez et le soir avant de vous coucher?
Est-ce que les enfants sont prêts pour aller à l'école?
Je pense que c'est ça. t'as fait le lunchbox.
C'est ça. On ne se réveille pas comme Roméo et Juliette avec des problèmes, non. On est là et on se dit les choses qui doivent être faites, c'est ça.
Vous vous dites jamais « je t'aime »
ou... Si, on le fait, mais c'est pas vraiment articulé, c'est pas organisé, quoi.
Moi, je le dis souvent plus qu'elle.
Oui, je le reconnais.
Moi, je m'exprime facilement, je le dis facilement.
Je vais terminer par ce témoignage anonyme. Déjà 25 ans que je suis marié avec la même femme. Honnêtement, ça m'a paru très court. Nous avons eu des épreuves, des moments intenses, de grandes joies et de profondes déceptions. La vie s'est chargée de quelques rides et cheveux blancs supplémentaires, mais l'amour que nous avons l'un pour l'autre n'a cessé de croître depuis ce jour où nous avons dit oui. Je suis personnellement un enfant du divorce. Je l'ai connu à 16 ans et ma confiance en l'institution était alors plutôt mitigée. J'ai plongé dans l'aventure maritale avec des convictions ne provenant pas de mon expérience personnelle, mais de la parole de Dieu. Et jamais je n'ai été déçu lorsque mes amis chrétiens ou non me demandent comment nous avons pu durer et vivre amoureux encore et encore. La réponse est tout simple, c'est grâce à Dieu. Je pense que c'est ce que vous avez aussi mentionné au cours de cette discussion, n'est-ce pas Nathalie?
Absolument, c'est une merveilleuse conclusion.
C'est l'écho d'un mariage qui est bâti sur la foi de Dieu.
Nous arrivons donc au terme de cette édition de Dialogue des religions. Merci à Nathalie Nyamoya et à Olivier Akizimana pour votre temps et votre contribution.
Merci.
Merci à vous.
Merci à Lionel Rudanila Gaïma pour la mise en